C'est le verset de la Torah, qu'est-ce qu'il dit? La multiplicité, c'est pas dans la Torah, c'est dans la réalité sur laquelle on fait réagir la Torah. Grâce à ta question, je m'aperçois que tu n'avais pas compris ce que j'avais dit.
Non,
laisse-moi parler, tu n'as pas fini. Et vous connaissez le verset qui dit que, à propos de Shevim Panim la Torah, que Patish, il faut c'est là. C'est comme un marteau qui éclate le rocher et qui fait éclater 70 étincelles. Bon, mais il y a un rocher. Le rocher, réagissant sur le marteau, il y a ces étincelles-là. Pour dire les choses simplement, si je dois décider pour un enfant mineur, si je dois décider pour un adulte majeur, ce que demande la Torah n'est pas la même chose dans un cas ou de l'autre. Mais c'est le même verset qui institue et pour l'un et pour l'autre. C'est ça que je veux dire. Schématisons bien les choses si j'ai bien compris la question. Et alors, effectivement, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est Shevim Panim la Torah. Parce qu'il y a Shirim, possibilité de voir comment est le monde. Alors il y a Shirim Panim pour le monde. Mais, Halakha le Maase, Kola Aouer, Al-Dibre Khamim Khayamita. Mais une fois qu'on a décidé, la Halakha est comme ça, celui qui ne fait pas comme la Halakha, il est Khayamita. Même s'il est un des Khamim de ses 70. Est-ce que c'est clair ce que je dis là? Je crois que c'est comme ça qu'il vaut le mieux répondre à ta question. Mais j'entends souvent, surtout des libéraux, me dire « Mais chacun a le droit d'avoir son opinion comme il y a les chamans. » Il dit « Oui, mais c'est il y a les chamans et c'est pas toi. » Je ne sais pas ce que je veux dire. Okay. C'est énorme d'ailleurs. C'est pas n'importe quel petit juif qui peut se dire « Bon, moi je décide que c'est comme ça. » C'est mon opinion, comme il y a avec la sienne, les chamans avec la sienne. C'est ça qu'il faut. À partir du moment où la halakha est comme ça, ce qu'a dit Rabbi Akiva, si c'est pas comme la halakha, on n'a pas le droit de faire comme lui. Et pourtant c'est Rabbi Akiva. Ça veut dire, si la réalité dans le monde était comme dit Rakiba, la halakha est comme lui. Voilà, je schématise en disant, en vous citant le cas classique de la méthode du Talmud, Rabbi Intel a dit ceci, Rabbi Intel dit ceci, Rabbi Intel dit ceci. Et le maître de la génération se lève et dit, halakha comme tu l'as. Ça veut dire qu'ils ont tous raison. Si la réalité était comme il la voit, la halakha c'est comme ça. Si la réalité était comme il la voit, la halakha c'est comme ça. Mais c'est comme le maître de la génération, qui lui diagnostique « Alakha le Maase », c'est comme celui-là et pas comme les autres. Ça ne veut pas dire que les autres disent faux. Mais alors, comment ça peut être vrai et pas réel? Parce que les grands de la Torah, c'est pas n'importe qui va se mettre entre les 70 haramis du Sanhedrin. C'est ça, est-ce que c'est vrai? Bon.
Mais le maître de la génération du temps dit « Alakha c'est comme ça ». Est-ce que 1000 ans après, est-ce qu'il n'y a pas un autre maître de la génération qui doit dire « Alakha c'est comme
oui,
ça »
Oui, si c'est le maître.
Mais il ne peut pas s'opposer.
Si c'est le maître de la génération. Non, même s'il s'oppose. Si c'est le maître de la génération. C'est pourquoi je parlais de la smicha. Alors, j'ai pas fini. Jusqu'à ce temps-là, les Romains, on savait où est le maître de la génération. Mais depuis, on ne sait plus. C'est la raison pour laquelle vous avez ces milliers de sectes. Chacun dit, mon rabbin dit que. Vous avez remarqué. Et alors, comment on va s'en sortir? Ce qui fait que la plupart des poskins, que sont les poskins, parce que halakha, les grands du savoir, qui donnent les décisions, raisonnent, ils ont une puissance d'érudition telle qu'ils raisonnent et sur les décisions antérieures. Et la décision postérieure qu'ils vont prendre doit dans tous les cas ne jamais contredire ce qu'il y avait avant. Mais c'est dans le cas où ils ne savent pas quel est le sens de la loi. Alors ils raisonnent sur la forme des décisions antérieures. Mais s'il y a quelqu'un qui sait quel est le sens de la loi, c'est lui qui doit décider. Mais on est en plein désarroi à cause de ça. Le fait que les Romains ont arrêté la Smyrna. Mais j'ai pas fini. Maïmonide dit, Yachid, Verabim, Alakha, Verabim. Un seul et plusieurs, la Alakha est comme les plusieurs. C'est Gamara. Mais voilà, je veux dire ce que Maïmonide a cité après. Et donc, quand on a un cas nouveau, on prend la majorité des décisionnaires. Ça ne veut pas dire que la minorité a eu tort. Ça veut dire que la minorité a un diagnostic qui n'est pas celle de la majorité. Le diagnostic le plus vraisemblable, c'est quand même celui de la majorité des hachamim. Mais qui sont les hachamim? Oui, il y a mystère dans mystère. Et même il ajoute, « Vehim, vehim aemetito hu arabim. » Et si la vérité est avec lui qui est tout seul, c'est lui le plusieurs. Hachem, ou Elohim, mais lui, il est tout seul, Hachem. Je ne sais pas ce que je dis. Hachem, c'est un singulier, Elohim, Hachem. Et alors, il y a surtout, il faut faire une analyse de motivation. C'est ceci. C'est qu'en général, on va voir, pour avoir une réponse, celui dont on sait à l'avance quelle est la réponse qu'il va donner. C'est très dangereux.
C'est le commentateur. Et quoi, c'est la réponse
avant de la poser. Et ça va qui se... Oui. Vous quand les juifs contemporains, la grande majorité, c'est chez celui qui va dire comme il voudrait entendre qu'ils vont. Vous avez compris ce que je veux dire ?
C'est un danger.
Bon, c'est plus qu'un danger. Ça veut dire qu'ils ont le droit. Mais alors c'est Da'at Yachid, une opinion personnelle. Dire c'est ça la halakha pour tout le monde. Alors qu'en réalité, l'analyse psychologique, c'est que c'est la halakha pour lui. Et pour lui, ça doit être comme ça. Parce que c'est pas pour rien qu'il va demander à celui-là, après. Mais c'est clair. Est-ce que vous suivez ? Je veux dire, autant la vie religieuse était normale, eh bien, chaque rabbin décidait pour ses juifs, parce qu'il les connaissait, il savait de quel type de juifs ils ont. Ça, on apprend de quel paracha ? De Matot. C'est quel paracha ? Bientôt. On l'étudiera à ce moment-là. La halakha, dans les anciens temps, était que chaque ville avait son sanhédrin. Chaque tribu avait son sanhédrin. Chaque ville avait son sanhédrin. Parce que je ne sais pas comment vous dire. La halakha pour un juif du Yémen ne peut être donnée que par un rabbin yéménite. La halakha pour les juifs de Tchécoslovaquie ne peut même pas être donnée par un rabbin yougoslave. Ben, vous avez compris ce que je veux dire. Chacun ses juifs. Aujourd'hui, il y a un tel désordre qu'il nous faut bien une halakha de principe pour tous les juifs. Mais comment elle doit être appliquée ? C'est là qu'intervient l'imam, c'est le rabbin de la communauté qui dit comment elle doit être appliquée. Très souvent, les gens viennent me poser des questions. Ils disent, qu'est-ce que tu veux savoir exactement ? Comment est la halakha de Moshe Rabbeinu ? Ou comment serait la halakha du rabbin de la communauté ? Qu'est-ce que tu veux savoir exactement ? C'est pas la même chose. Alors pour tel genre de questions, il faut que tu demandes comment ta grand-mère elle faisait et à quel rabbin elle demandait. Pour tel autre genre de question, il va falloir, tu vas voir le Abedin de la ville. Vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce que c'est clair ? Par exemple, il y a des questions qui sont des questions apparemment de minhag, mais c'est beaucoup plus profond, où il faut demander au rabbin de sa communauté. Par exemple, il y a la naissance d'un petit garçon. Il y a des communautés où c'est interdit de donner le nom du grand-père quand il est vivant. Il y a des communautés où c'est le contraire. Il faut donner le nom du grand-père d'après quand il est vivant. Alors, qui va trancher ? Quand on vient me demander ça, et parfois c'est très compliqué, parce que la femme et le mari ne sont pas toujours la même communauté. Alors, ma femme, elle veut comme ça, et moi, ma mère, elle demande comme ça. Alors, comment il faut faire ? Alors, à ce moment-là, on fait comme le Dayan de la ville. Mais sinon, il faut faire comme le rabbin de la communauté d'origine. Vous comprenez le problème ? C'est pas... Seulement, je reviens à la règle de tout à l'heure. La grande pagaille qu'il y a, si j'ose dire, dans les... C'est ça. C'est que les gens, spontanément, tendance à aller voir le rabbin, donc ils savent déjà par réputation qu'il aurait tendance à répondre comme il voudrait qu'il réponde. Voilà, c'est ça que je veux. Mais je me rappelle très bien, c'était un temps où il y avait les premiers parler de Choua, les élèves d'Orsay. Ça vous dit quelque chose ce temps-là, il y a 50 ans. Eh bien, je me rappelle un de mes élèves que j'ai surpris à dire à un homme, ne va pas chez celui-là, il est porté sur la coula. Je sais pas si vous voulez. Ne va pas chez ce rabbin. Il est porté. Bon. Alors on revient. Oui. C'était. On est parti de quelle question ? La tienne. Hein ? 70. La tienne, non, celle de. D'accord. Ça c'est un peu plus clair. Bon, mais rappelez-moi que vraiment un jour. Alors, à qui je vais confier ça pour me rappeler ça ? Il faudrait que vous me demandiez de marquer ça. Un autre mot. Quoi ? Oui, là, c'est Baba Batra, page 10, sur Zakat de Romain Gouy, de Chesed Ben Khatan. Est-ce que j'ai un texte là-dessus ?
Oui.
Là, si ce texte existe,
tu le pires.
Hein ? Il est publié ? Oh, mais non. Eh bien, tu le pires. Comme ça. Juste ce texte-là. C'est un exemple très clair. Un maître qui demande à chacun de ses grands élèves ce verset, qu'est-ce qu'il veut dire ? Et on a X réponses différentes. Et alors, on verra dans l'étude que que les différences ne viennent pas de ce que dit le verset, mais de l'application de ce verset à une situation socio-politique. Vous avez compris maintenant la différence entre Torah Shebichtav et Torah Shebaal-Peh. Celui qui ne sait pas lire Torah Shebichtav, c'est un sadducéen, c'est pas un pharisien. C'est-à-dire c'est quelqu'un dont la lecture de la Torah dépend de la valeur de son dictionnaire. Alors que la Torah des pharisiens, c'est comme Moïse a dit que ça se transmet. Je crois que ça suffit là-dessus, mais c'était important quand même de le clarifier. Alors on aborde le texte. Je crois qu'on va faire que le premier. Bon, alors. Avant de continuer, parce que comme j'ai une autre mitzvah à faire après, je veux savoir si vous pouvez avoir Minyan sans moi. Est-ce que vous auriez Minyan sans moi ?
Pardon,
hein ?
Yasser,
oui, mais avant. Hein ? Il y aura sans moi, je peux partir à 8h. Bon, alors vous m'avertissez à 8h05. Alors on va aller un peu vite, parce que l'introduction a pris plus de temps que prévu. Il ne faut jamais me laisser introduire. Et Dieu s'est adressé à Moïse et à Aaron en disant, il faudrait étudier pourquoi les deux à la fois, mais je n'ai pas le temps ce soir. Zotru kata Torah, voici le statut de la Torah, à ce sujet Hachem les mots, que Dieu a prescrit de dire en disant, d'abord béni Israël, parle aux enfants d'Israël, veikro elecha, et qu'ils prennent pour toi, para aduma, une vache rousse, temima. Temima, ça ne veut pas dire pure, dans le sens qu'elle n'aurait pas de défaut. Ça va être dit par la suite. Temima, ça veut dire être entièrement pure en tant que rousse, qu'il n'y ait pas un seul poil qui ne soit pas haut. Ça, c'est Temima, ici. Hachereno Amou, où il n'y aurait pas de défaut, ça c'est dit après. Hachereno Alaraléaol, et sur lequel le jour s'est fermenté. Et alors, la Torah continue, il faut brûler cette vache en y ajoutant d'autres ingrédients et ces cendres de la vache rousse pour pouvoir, une fois être mis dans le bain rituel, rendre pur ce qui s'était rendu impur par l'impureté de la mort. Et le grand paradoxe, c'est que le Kohen qui préparait ces cendres de la vache rousse, lui, se rendait impur. Et nous avons là un thème très important. Je signale ça simplement, ça ne prendrait trop de temps. Ce paradoxe, c'est que celui qui rend pur ce qui est impur, par là même, alors qu'il était pur, il se rend impur. Réfléchis bien à ça. C'est ça le grand pas, la ruka de la para aduma. Et je n'ai trouvé dans mes études qu'une comparaison pour bien montrer que ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une sagesse là-dedans. Il y a une sagesse, seulement elle est au-delà de la force de la raison. C'est un axiome de sagesse qui nous vient de plus haut que la raison. Les mal à mersechel, en hébreu, ça ne veut pas dire que c'est absurde. Ça veut dire que c'est plus sagesse que le sechel lui-même. C'est les mal à mersechel. Je ne sais pas si c'est clair en hébreu pour moi c'est évident. Alors que beaucoup de gens traduisent les mal à mersechel comme absurde. Ils traduisent plus haut que l'intelligence comme si c'était plus bas que l'intelligence. Vous avez compris ? Eh bien, la comparaison que j'ai trouvée, c'est en mathématiques. Et ça, déjà au lycée, quand j'étudiais ça dans le doctorat, c'est le produit des extrêmes et des moyens est égal. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a une très grande sagesse là-dedans. Mais c'est un axiome. Ça ne peut pas se démontrer. Le produit des extrêmes et des moyens, quand vous avez une égalité de fraction, bien, le produit des extrêmes et des moyens est égal. Voilà un type d'axiome indémontrable, mais c'est plein de sagesse. Et puis, là, nous avons ce qui rend pur l'impur, rend impur le pur. Réfléchissez bien. Et ça, c'était la grande capacité de Moïse. C'est quoi la vache rousse et l'oreille du genre de Moïse. Moïse était capable de faire cela. Rendre pur ce qui était impur, pour que la Géoula arrive. Mais par là même, il rend impur ce qui était pur. Réfléchissez bien. La sagesse qu'il y a là-dedans. Très peu de grands d'Israël ont eu ce courage d'être Moïse. Parce que rendre pur ce qui était impur, ça rend impur ce qui était pur. Qui est atteint. C'est le Kohen qui prépare la paradouma. C'est grâce à la paradouma que le peuple va être purifié, mais lui, le Kohen. Vous avez compris, le... Je vous fais une petite étymologie du prêtre en latin. C'est pontifex. Pontifex, il devient le pontife. Le pontife, dans le réalisme latin, c'est le prêtre des ponts. À l'extrémité du pont, il y avait un prêtre qui levait les impôts religieux de passer sur le pont. Mais, ça va plus loin. Le prêtre, c'est lui-même le pont, on le passe dessus. Pour passer d'un côté à l'autre, c'est sur le prêtre qu'on passe. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Okay. Ça, c'est la difficulté d'être Kohen. Et, pour revenir, ça ressemble beaucoup à ce qui arrive. Seul Moïse a été capable de rendre pur le peuple d'Israël qui était impur de l'exil. Mais par là même, il se condamne, lui, à ne pas rentrer en Israël. Ça, c'est un chidouche, hein, putain, attention. J'ai pas de
sens.
Mais il faut bien comprendre ça. Hein. Et c'est pourquoi les textes disent que la paradouma est appelée du nom de Moïse. Et on attend qu'il y ait une paradouma pour garantir la gueule. Vous savez très bien que chaque année, il y a dans les journaux, ah, on en a trouvé une. Mais à la loupe, on voit qu'elle n'est pas encore. Mais, parce que c'est ce mystère d'une créature parfaite dans un monde imparfait. Si on trouve une créature parfaite dans un monde imparfait, à Shavlo'ala'ala'ala'ol, c'est sûr qu'on est en train de basculer dans le monde à venir. Parce que notre monde est imparfait. Ce qui définit notre monde, ce monde, c'est le monde, le défaut. Retenez bien ça. Olamazé, c'est Olamamoum. Vous rappelez ce qu'ils savent lire dans la tfila. Meshartim, Vahashem, Meshartav, j'ai un astérix sur même vague, même nom. Le Shabbat matin, vous chercherez où c'est ça. Si je vous dis, vous allez trouver. Meshartim, Vahashem, Meshartav. Même vague, même. Où ça se trouve?
Le 4e Israël.
Pas plus haut.
Le 3e Israël.
Oui, dans le Yotzer. Oui. Et le service de ce monde-ci entraîne le défaut. Alors vous voyez, il y a là le mystère de ce monde-ci, dont le défaut principal, mais je veux dire un peu plus de monde très rapidement parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Regardez, je reprends les versets du verset Bereshit. Il y a un verset, je vais vous expliquer d'après la Kabbalah, mais sans entrer dans le détail de la Kabbalah. Ikavu Hamaim de Makom Echad. Je vous l'écris au tableau, c'est pas la peine. Quelqu'un peut écrire au tableau. Ikavu Hamaim de Makom Echad. Ça veut dire que les eaux se rassemblent dans un seul endroit. Regardez bien en hébreu. Ikavu Hamaim. Qui est un kav entre même et même. Ikavu Hamaim. Que les eaux se rassemblent, qu'il y a un kav. Un kav, c'est un lien, kav, entre même et même. Il y a deux mêmes, maïm. Il y a le même de l'origine, il y a le même de l'accomplissement. Alors, Ikavu Hamaim de Makomer, qui est un kav entre même et même. Quel est le mot qui apparaît là? Makom. Qui est un kav entre même et même. Ça y est, c'est clair? Regardez le verset. Ikavu Hamaim de Makom Echad. Bon. Et le sens de cela, c'est qu'il y a un cave entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Les eaux d'en haut, c'est Maïm. Et quand le Yud descend, il descend en Vav. Donc en haut, il y a écrit Maïm, en bas, il y a écrit Moum. C'est la différence entre le monde projeté par Dieu, qui est déjà dans le Maba, les Maïm, et le monde de ce monde-ci, qui est descendu en Moum. Le Makom est en bas. Je fais ça en dentelle, hein, pour que vous ne compreniez pas. Mais c'est clair. Alors, or, le mot de Moum a pour valeur numérique Ateva, la nature. La nature, par rapport au monde de vérité, c'est l'endroit du défaut. Ça y est, l'idée est suffisamment claire. Et alors, quel est le défaut de la nature? C'est la mort. Et alors, le fait qu'il y ait la mort dans la nature entraîne l'impureté. Et par conséquent, la Torah serait impraticable si on ne savait pas comment guérir la pureté de la mort. Dans le monde de la nature, la Torah n'est pas chez elle. Ça explique pourquoi le Midrash dit que quand Moïse est monté là-haut prendre la Torah, les anges n'ont pas voulu la donner. Il dit c'est pas pour vous en bas. Il faut être un ange pour pratiquer la Torah. Parce que dès qu'il y a impureté, il n'y a plus de Kedusha. Or la Torah, c'est pour la Kedusha. Alors voilà la grande contestation des Goyim contre Israël. Qu'est-ce que vous nous racontez que vous pouvez pratiquer la Torah? On ne peut pas pratiquer la Torah quand il y a la mort. Pour ceux qui auraient étudié le christianisme, je ne sais pas si c'est votre cas, je n'ai pas de temps à perdre, mais ça je peux vous le dire, c'est mon métier d'étudier ces choses-là. C'est exactement la différence entre le christianisme et le judaïsme. Le christianisme, c'est une religion de la mort. Et c'est pourquoi ils ne veulent pas de la Torah. Et tout, leur tana, c'est de dire, la Torah, on ne peut pas. C'est les anges. Hein? Et vous, les juifs, vous êtes des hypocrites, vous faites semblant de pratiquer la Torah avec des trucs. Quel truc? Paradouma. Alors voilà, qu'est-ce que ce truc qui vous permet de faire comme si, faire semblant que vous ne mourrez pas? Voilà le fond du problème. Vous y êtes okay. Alors effectivement, il faut savoir, Torah Minashamayim, nous avons reçu une Torah des anges pour la pratiquer sur terre. Et tous les goyim contestent ça. Dit que qu'est-ce que c'est que ces trucs avec lesquels vous faites semblant de pratiquer la Torah? Pratiquez pas la Torah. Vous êtes mort, vous êtes impur, vous êtes. Vous savez, c'est clair? Bon, on lit ça dans Rashi. Alors regardez Rashi. D'autres cas de la Torah. Suivez avec moi avec Rashi. Mes filles, chez un Satan, le monde par là, c'est parce que le Satan et le peuple du monde, Monim et Israël, conteste Israël, l'homme en disant, ma mitzvah, qu'est-ce que c'est cette mitzvah? Ou ma tara mitzvah? Et quel sens elle a? Les fichach katar bahuka. C'est pourquoi est écrit le mot de Huka. Gzera himilefanai. C'est un décret devant moi. Enicha reshu. Leaher aharea. Tu n'as pas le droit de réfléchir là-dessus. Tu n'as pas le droit de contester là-dessus.
Réfléchir bien.
Ah ben,
réfléchir quand même.
Non, non, c'est moi qui parle. Tu vas encore me faire penser à autre chose. C'est bien ce que je dis. Et alors, j'arrive à ce que tu voulais savoir. Les harem. C'est-à-dire ça, on dit à qui? Au Satan, au goyim, pas aux juifs. Alors, vous voyez comment ça résout la difficulté tout à l'heure. Le fait de dire que Hawk, ça n'a pas de sens, il ne faut pas chercher le sens. C'est pour le Satan et le goyim, c'est pas pour nous. Nous, on va comprendre ce que ça veut dire. Mais étant donné qu'il y a une contestation de la part des goyim, complaisance de Dieu. Dieu vous a donné un truc pour pratiquer la Torah alors même qu'il y a l'impureté. Vous avez compris le sens que, en principe, on ne peut pratiquer la Torah s'il n'y a plus la mort. La Torah, c'est pour le monde à venir. La Torah, c'est pour les Kedoshim. Mais vous vivez dans un monde où il y a l'impureté. Alors qu'est-ce que vous racontez pour pratiquer la Torah? Et alors, on va leur sortir une mode d'emploi. Ben voilà, la cendre de la vache rousse, ça vous rend pur, ce qui est impur. La réaction des goyim ne peut être que vous vous foutez de nous. C'est clair? Alors on leur répond, ah non, je ne cherche pas à comprendre. Le bon Dieu l'a dit, le bon Dieu l'a dit. Comment? Voilà quel est le problème. Est-ce que c'est clair? Et si vous voulez, il y a une phrase, les Sadducéens ont déjà parlé comme ça. Il y a une phrase dans le Maharal Shabbat, page 88, sur Maaseh Nishmar. Quand les Sadducéens disaient, les Pharisiens, vous êtes un peuple en pasiz. Que l'on traduit pasiz, plus qu'en pressé, pasiz. Qui se précipite. Hein. Dit, dès que Dieu vous a donné les 10 commandements, vous avez dit Maaseh Nishmar, hein, nous ferons, nous comprendrons que c'est cet empressement. Alors, on leur répond, nous avons confiance en Dieu, c'est Dieu qui parle. On est tranquille. Les raisons de ces désathées, ils ne savent pas trouver pas. Vous voyez ce que je dis. Alors, les goyim nous disent, mais qu'est-ce que c'est ce pharisaïsme de la vache rousse? Alors, on lui répond, c'est Dieu qui a dit, on ne cherche pas. Mais c'est aux goyim, aux Satan qu'on dit ça. Pas aux enfants d'Israël. On va prendre des enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. C'est aux canards sauvages qu'on dit, c'est Hawk, on ne cherche pas à comprendre. Est-ce que c'est clair? C'est Rashi, vous êtes Rashi, il n'y avait pas de problème. Vous voyez que tant qu'on n'a pas lu, on n'a pas lu. D'accord? Alors, voilà quelle est la question. Je pense que c'est clair maintenant. Okay. C'est un hoc. Qu'est-ce que c'est un hoc? C'est grâce à cette disposition que la Torah est possible. Et c'est pourquoi cette misa s'appelle Hokat HaTorah. Parce que sans cette mitzvah, la Torah est impraticable. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Il m'a fallu une heure pour lire deux mots.
Maintenant,
pour la fin. C'est ça. C'est pour ça que on est impur. C'est pour ça qu'on est impur. Mais il faut bien savoir comment est le problème. Si nous avions un Sanhédrin capable de diagnostiquer une vache rousse, il y aurait une vache rousse. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je veux dire. Pourquoi il n'y a pas de vache rousse, hein? Parce qu'il n'y a pas de Moïse. S'il y avait, il n'y a pas encore Moïse. Alors il n'y a pas encore la vache rousse. S'il y avait quelqu'un capable de dire, ben voilà, elle serait là. Vous allez me dire, je suis mystique. C'est pas vrai, c'est pire. C'est la Torah qui dit ça. Bon. D'ailleurs, aujourd'hui, je suis mystique, je suis pas mystique. Il y a je voudrais ajouter pour les 5 minutes qui nous restent. Vous savez qu'est-ce que c'est plastique, mystique? Non, il y a les Ashkenazes qui savent. Les Ashkenazes,
quoi? Oui. Bon.
Mystique, qu'est-ce que c'est?
Mystique. Oh, mystique, c'est le
rat. Aïe, c'est mystique. À la vie, avec la vie. Bon, on revient au sujet. Je vais lire une lecture que j'ai lue. Ça, je vous garantis, c'était un mefarech. Seulement, j'ai recherché dans le Roi Haïm, je ne l'ai pas retrouvé. Alors, je ne sais pas si c'est dans le Roi Haïm ou un commentateur du Roi Haïm. En tout cas, que j'ai lu, c'est sûr, ce n'est pas de moi, cela. Il va répondre de manière plus massive. Au Goïm et au Satan, le véritable mystère, c'est pourquoi Dieu s'adresse à Israël pour donner la Torah. Le véritable mystère, c'est d'abord le béni Israël. Alors regardez comment il le montre dans le texte. Prenez verset 2, lisez sur le texte. Zotrukata Torah, Shesiva, Shememo. Voici le caractère mystérieux de la Torah, celui qu'on ne discute pas, qu'il n'y a pas de raison que Dieu a prescrit en disant. En disant quoi? Le fait qu'il est prescrit en disant d'Aver ben Israël. D'Aver ben Israël, c'est ça, encore une fois. On trouvera explication à tout dans la mitzvah, sauf une chose. Pourquoi c'est aux Juifs que c'est donné? C'est ça le mystère. Il y a un choukha de la Torah. C'est d'Aver ben Israël. Ça, personne ne pourra l'expliquer. Est-ce que c'est clair? Vous avez compris le début? Donc, effectivement, on arrive à la notion de choukha qu'on ne peut pas expliquer. Oui. C'est pas moi, c'est
ça. C'est ça, on a pas d'avis. Kevin.
Non. Voilà. Oui, c'est bien mon avis, celui-là, non? Comment il s'appelle? Vous? Ah oui. Vous attendez l'envie, hein, j'ai oublié.
Oui, je reviens, ça va changer.
Ah bon, vous attendez l'envie, j'ai toujours l'envie. Je t'ai dit ou je ne l'ai pas dit? Je ne l'ai pas dit.
Oui, vous m'avez dit.
Ah bon. Bon, c'est pas grave, c'est les anges sont la cause. Comme j'ai dit l'autre fois, j'ai mangé trop de anges dans ma vie. Le reste est là. Bien, eh bien, il nous reste 5 minutes. Si vous avez une question. Alors, on va faire un pacte, si vous voulez. Demain?
Oui.
Demain. La prochaine fois, c'est Matot?
Non.
C'est Pinhas. Ah, c'est Balak. Bon, alors, on va pas se casser la tête avec Balak. On va voir la Gemara. Vous êtes d'accord? On fera la Gemara de la Gemara. Donc tu tires juste la page, pas le cahier. On va le rendre à faire parce que sinon. Bien. Vous avez une question? Alors dans tous les cas, on se verra la semaine prochaine et vous restez pour une heure.
Ah, oui.
Moi je suis obligé de partir à une heure, donc je serai. C'est déjà l'heure de la vie.